Boom. On est en direct avec Myriam Laribi. Bienvenue à toi et bienvenue à tout
Merci.
le
Merci de me recevoir.
ben, c'est parfait. J'avais hâte, en fait, de te retrouver puisque ce drame, ce désastre, c'est vrai que j'ai même la peine à trouver les mots pour qualifier le génocide en Palestine. C'est quelque chose avec lequel je me lève tous les matins et avec lequel je me couche tous les soirs. C'est en fait, ça prend tout l'espace, j'ai l'impression, depuis octobre 2023, de ne plus respirer, hein, même ça prend vraiment tout l'espace. Et évidemment, il va sans dire que ceux qui souffrent le plus, eh bien, forcément, c'est les Palestiniens, les Gazaouis, enfants, femmes, personnes âgées et les hommes, bien sûr. Et puis, du coup, ben, c'est vrai que chaque occasion que j'ai de pouvoir partager, en fait, cette peine qu'ils portent avec autrui, eh bien, c'est quelque chose qui m'amène un semblant de réconfort, même si, effectivement, ce qui prévaut, c'est ce sentiment d'impuissance. Et là, il y a, je pense, des millions et des millions, des dizaines, peut-être des centaines de millions de personnes sur la Terre à qui on impose un génocide en direct et en même temps une impuissance, étant donné que tous nos gouvernements, en tout cas en Occident, ne font absolument rien, ne serait-ce que pour agir à minima, faire quelque chose qui aurait un impact même des plus faibles. Donc voilà, je te remercie d'être là. Je ne sais pas comment toi, tu te sens face à la situation indicible qui est celle de Gaza actuellement.
Ben, un peu comme ce que tu viens de dire, en fait, c'est un sentiment de grande impuissance et à la fois, ouais, la tristesse, le désespoir de voir cette situation inimaginable, cataclysmique, et le sentiment de culpabilité aussi d'être nous dans un confort ici en Occident. Avoir à manger, être en sécurité, tout ça, et voir que des gens déjà depuis toujours, mais encore plus depuis le 7 octobre 2023, sont privés absolument de tout ce qu'un être humain est en droit d'attendre, comme dirait l'insupportable Céline Pina. Tout ce qu'un être humain est en droit d'attendre, eh bien les Palestiniens en sont privés, c'est-à-dire de nourriture, d'eau, d'électricité, de routes, de maisons, d'écoles pour les enfants, d'hôpitaux, tout ce qu'un être humain est en droit d'attendre, eh bien, les Palestiniens en sont privés de manière cruelle et inhumaine depuis près de 2 ans. On approche des 2 ans et voilà, donc ouais, un sentiment vraiment de profonde tristesse, de colère, d'injustice. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a plus de mots en fait depuis bien longtemps pour décrire ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on voit en Palestine. Moi déjà depuis longtemps en fait, avant même le 7 octobre 2023, c'est ça aussi qui est particulier dans cette histoire, c'est que c'est une histoire ancienne, c'est que ça n'a pas commencé le 7 octobre 2023, que les Palestiniens souffrent depuis toujours en fait. Et qu'ils souffrent encore plus et qu'ils subissent un génocide après une vie complète, des générations de souffrance, c'est très dur. Enfin, je pense qu'on est une génération un peu traumatisée par ce génocide parce que on est la première génération à assister à un génocide en direct. Donc, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que voilà, la planète entière peut voir en direct sur son téléphone, sur ses écrans, tous les jours, des massacres abominables, des privations abominables, une injustice insupportable. Et voilà, et tous les jours comme ça depuis presque 2 ans maintenant. Dans un mois, on sera aux 2 ans du 7 octobre 2023. Donc voilà, un sentiment d'impuissance aussi. Même si je fais un travail, disons, j'exerce un métier central qui est celui de journaliste, donc la chance, entre guillemets, de pouvoir informer, en fait, ou d'essayer d'informer, mais voilà, je l'exerce pas dans un média dominant qui peut être influent, en fait. Je l'exerce dans la sphère dans laquelle je peux évoluer, dans l'espace que j'essaye d'occuper pour informer au mieux et rétablir des vérités ou montrer des vérités qui sont omises par les médias dominants, quoi. Je suis pas la seule, heureusement. Il y a eu on a vu un certain nombre de médias alternatifs, comme toi, ou des chaînes, ou des gens qui se mettent à informer et qui grâce à qui on peut avoir les informations qui sont vraiment soit cachées dans les médias mainstream, soit qui n'occupent pas la place qu'elles devraient occuper vu la gravité de la situation. Donc voilà, c'est à la fois impuissance, à la fois le sentiment d'avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Et j'essaye de faire ma part, comme dans la légende du colibri, où chacun essaye de faire sa part. Moi, depuis le 7 octobre 2023, ma vie est consacrée à ça. Et je fais au mieux, donc tout ce que j'ai fait depuis le 7 octobre était à destination, dans le but d'informer sur la Palestine, sur Gaza et sur ce qui se passe là-bas.
Oui, c'est vraiment aussi pour cette chaîne aussi. Hein, j'ai l'impression que ce génocide, c'est aussi une parenthèse où je suis convaincu qu'on devrait tous concentrer notre énergie là pour que cesse cette inouïe cruauté qui se passe devant nos yeux. Enfin, on se prétendait humain. Si on se prétend humain, je ne vois pas quelle pourrait être l'autre alternative.
Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire, ouais, que de dénoncer un génocide aujourd'hui? Moi, je me pose souvent cette question. Qu'est-ce que quand je vois certaines personnes, je me dis, mais t'as quoi de mieux à faire, en fait, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de plus important, en fait, que de dénoncer un génocide qui a lieu sous nos yeux, un nettoyage ethnique, là, peut-être, bientôt. Enfin, on est dedans, complètement, en Cisjordanie. Et à Gaza, on est à un niveau de cynisme et de folie, de dinguerie des dirigeants israéliens et états-uniens qui est... il n'y a plus de mots après tout ce qu'on a vu. Là, Trump qui a osé nous faire sa vidéo sur la Riviera, sur les corps qui veut construire sur les corps des enfants palestiniens. Voilà, est là, on est dans un monde comme ça de fou. Et dans ce monde, en fait, il n'y a plus que deux types de personnes, en fait. Il y a les gens qui soutiennent ça, la Riviera, la cruauté, le massacre d'enfants de masse. Et il y a nous.
Exactement. Et j'ai l'impression que même l'expression d'émotion face à ça crée pour certains un malaise. Alors déjà, pour nous, mais en fait, ce que vivent les Palestiniens, c'est ce que nous, on vit, mais fois un milliard, quoi, fois infini quasiment. Mais on voit bien que si tout d'un coup, et peut-être dans ta pratique du journalisme, on l'avait aussi senti, comme il t'avait répondu avec... dédain, et quand tu avais aussi exprimé une forme de colère ou de frustration dans la question, et ça c'est encore pire pour les Palestiniens parce que ils enjambent les morts quand ils sortent de chez eux, leur maison est détruite, il n'y a plus d'hôpitaux, leur famille, tout le monde est massacré en petits morceaux. Mais s'ils osent dire, par exemple, comme cette histoire qui arrivera en France de la personne qui avait réussi à sortir de Gaza, qu'elle était en colère contre Israël, et puis elle a fait la faute horrible de dire que les Juifs étaient des... Je ne sais pas, peut-être elle les a insultés, ou elle a exprimé de la colère d'une certaine manière, certainement maladroitement, et puis elle a été expulsée de France pour une histoire parmi d'autres. Ça veut dire qu'en plus, on assassine et on efface totalement le peuple palestinien, mais en plus, on ne leur laisse même pas le droit d'être en colère et d'être en résistance avec ça. Il faudrait qu'ils s'écrasent et qu'ils résistent, mais doucement, hein, sans faire trop de bruit. Donc, je vois dans toutes les strates y a un déni d'humanité. Et évidemment, on le
Donc
sent aussi,
là,
moi, que je vois.
tu parles de l'étudiante, c'est ça, qui a été
Oui.
expulsée vers le Qatar. Oui, bon. Alors là, il y a eu des tweets qui ont été déterrés par ou des posts qu'elle a fait par quelqu'un qui est spécialisé dans la délation, qui est Sword of Salomon, qui a un compte anonyme, bon, plus très anonyme depuis quelque temps, dont la vocation est de faire ça. Et il a déterré des tweets et des retweets, je crois, antisémites. Moitié nazi et tout machin, mais le problème n'est pas celui-là en fait, n'est pas cette personne. Le problème est la punition collective qui s'en est suivie, c'est ça.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à partir de ce cas, moi que je ne vais pas épiloguer parce que je ne l'ai pas suivi, je ne sais pas, j'ai vu juste, je n'ai pas été vérifier l'authenticité de l'histoire ou quoi. Il s'avère que la fille bon, a été expulsée, c'est une chose, mais ce n'est pas le problème principal, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est. Pourquoi il y a une punition collective et il y a eu un arrêt suite à cela des sorties de Gaza vers la France, en fait. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'il y a des gens qui attendent depuis 2 ans que la France leur vienne en aide pour qu'ils puissent venir ici dans le cadre de programmes de solidarité internationale que la France applique avec tous les pays du monde, comme le programme PAUSE, qui est un programme pour les chercheurs et les artistes. Qui leur permet justement, comme son nom l'indique, de prendre une pause quand ils vivent dans une situation de conflit dans le monde. Et moi, j'ai suivi certains cas. Voilà, il y a parmi eux des ingénieurs, je sais pas, des peintres, des danseurs et tout. Et maintenant, ou des étudiants. Et maintenant, tous les Gazaouis sont bloqués à cause de cette histoire qui est. Ça veut dire, vous êtes tous comme cette personne qui a dit ça il y a je ne sais pas combien de temps. En fait, c'est une punition collective et c'est pour plaire à je ne sais qui ici, mais c'est vraiment pas une politique voilà, qui s'intéresse aux droits humains. C'est une politique qui s'intéresse à son image par rapport à des groupes de pression ici qui sont le CRIF, Elnet, etc. Et voilà, des députés qui mettent des pressions dingues sur le gouvernement. Et c'est voilà, arrêter toutes les sorties des Gazaouis vers la France. Au prétexte qu'une personne a dit quelque chose qui ne nous convient pas, ce n'est pas une démarche normalement, voilà, enfin, c'est une punition collective. Voilà, c'était
Voilà,
tout ça.
moi
Après, pour répondre à ton truc, on ne leur accorde pas le droit d'être en colère. Voilà, après, la colère doit être toujours maîtrisée dans le vocabulaire, ne pas faire d'essentialisation, nous non plus. Bien sûr qu'il y a de quoi être plus qu'en colère et avoir la haine. Et la haine est quelque chose qui est, face à cette situation, totalement compréhensible. Maintenant, voilà, il faut qu'on soit de tous les bords, il faut savoir raison garder et essayer de ne pas, voilà, bien sûr, de ne pas verser dans l'essentialisation des peuples, quels qu'ils soient.
Non, non, ça c'est évident. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, c'était un prétexte qui cherchait, ils allaient trouver quelque chose pour agir. Parce que lorsque il y a des déclarations en France sur, par exemple, ben voilà, c'est que de la répétition, hein, mais que les Palestiniens sont des animaux ou des choses comme ça, tu vois personne qui est expulsé, tu vois personne qui est
Ah non,
dénoncé.
oui, dans l'autre sens, par contre, oui, tu peux dire ce que tu veux.
Oui, mais
Ça, il
alors
n'y a pas de
ça veut
problème.
dire
Par
qu'ils sont
exemple,
lourds,
on
ils
a un
n'ont pas de
député.
règles.
Pardon?
Il n'y a pas d'autre sens. Ça veut dire qu'il y a un parti pris, il n'y a pas de règles. Ça veut dire qu'on choisit en avançant ce qui nous arrange et puis c'est trop facile d'une certaine
Ah
manière.
bah
C'est ça
oui.
que je voulais. Moi, je pense que si on considère qu'on est un
Il n'y a
État.
pas de lobby pro-palestinien en France, ça c'est certain. Donc
Ouais,
tu peux dire que le
c'est
peuple
tout à fait.
palestinien, tu peux dire que le peuple palestinien est un cancer, comme a fait Meir Habib, il t'arrivera pas grand-chose. Voilà.
Exactement.
Tu
Voilà.
peux juste
Et moi,
certains, je
non,
crois qu'il y a eu des plaintes déposées à la justice. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça n'a rien donné. Mais oui, tu peux dire, tu peux essentialiser les Gazaouis, tu peux dire que c'est tous des terroristes. Qu'il n'y a pas de Gazaouis innocents. Comme l'ont dit les dirigeants des différents groupes communautaires sionistes. Voilà, c'est pas un problème.
Oui,
En
moi, par rapport
France,
à la
en
liberté
France, on dit que c'est pas un problème.
d'expression, je trouve qu'on devrait pouvoir tout dire, sauf du moment où ça rentre dans le cadre légal de l'appel à la violence, comme c'est le cas avec, selon moi, Habib et d'autres. Mais que, dans l'ensemble, si on essaie de réfléchir de manière un petit peu humaniste, même quelqu'un qui viendrait proférer des propos racistes, xénophobes ou quoi que ce soit, si on regarde en perspective les atrocités qu'a vécu un enfant, en plus, c'est un enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas encore une personne complètement adulte, que cette jeune étudiante. Je comprends pas, moi je trouve ça complètement anormal, au-delà de la punition collective, qu'on réagisse comme ça aussi. Si on voulait vraiment guérir les choses, ben on lui expliquerait, voilà, attention, ce que vous faites là, c'est le socialisme, c'est pas comme ça qu'on va guérir, c'est pas comme ça qu'on va faire la paix, ou je sais pas, mais commencer un dialogue. Mais quand, c'est aussi notre incapacité à faire preuve d'empathie et à comprendre...
On n'est pas dans cette époque-là.
Le degré d'horreur. Mais si tu veux, moi, il y a quand même une
je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire.
Et puis après, on est de nouveau tout calme. Oui, tu sais, il y a un génocide. Non, si on comprenait vraiment ce que ça voulait dire génocide, on serait tous vent debout à devenir hystériques. Parce qu'en fait, ça revient déjà, mais ça va revenir sur nous, tout ça. Et pour moi, il y a une discrépance, enfin, je sais pas le mot. Et tu sens hein, qu'il y a de l'émotion là derrière. Mais justement, j'ai l'impression que tant qu'on nous coupe cette émotion sous les pieds, eh bien, en fait, il n'y aura pas réellement de mouvement suffisamment fort.
Non, mais l'émotion est plus que justifiée. Par contre, moi, je ne vais pas défendre ce qu'elle a retweeté, parce que j'ai vu un petit
c'est
peu.
C'est une question de défendre ce qu'elle a retweeté.
Non, mais je veux dire, ce n'est pas possible, parce que c'est comme c'était des appels à la violence claire contre les Juifs. Moi, je ne vais pas, soutenir ça, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai vu des retweets. Mais je te dis, là, tu me poses un peu une question sur laquelle je n'ai pas vraiment travaillé. Ce que j'ai vu, c'est des retweets où il y a des appels à la violence contre les Juifs. C'est certainement pas un truc à soutenir, ni une colère qui s'exprime de manière pertinente. Je veux dire, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas ça, la lutte des Palestiniens. Ce n'est pas contre les Juifs. C'est une lutte contre la colonisation, contre l'oppression qu'ils subissent. Donc, il faut rester la colère. Il faut toujours canaliser cette colère. Et même, je disais, la haine est justifiée. C'est-à-dire, vu le niveau de cruauté auquel les Palestiniens sont confrontés, il y a de quoi avoir la haine. Et je les trouve bien patients pour la majorité. Mais on ne peut pas, bien sûr, on ne peut pas cautionner des gens qui appellent à la violence contre les Juifs en général, etc. C'est impossible de faire ça. Enfin, je veux dire, c'est pas tolérable. Maintenant, le plus important, encore une fois, dans cette affaire, ce n'était pas cette personne, le cas de cette personne. Oui, qu'on aurait pu essayer de voir qu'est-ce qu'elle a...
traiter le problème différent.
On n'est pas dans ce type d'époque. Tu as bien remarqué qu'on est plutôt dans l'époque où... Voilà, c'est pas vraiment l'ambiance actuelle, faire de la pédagogie, etc. C'est pas ça. Elle a dit des choses ou elle a retweeté des choses qui sont scandaleuses. Apparemment, ça ne fait pas de doute. Mais elle n'est pas représentative du peuple palestinien et encore moins du peuple gazaoui martyrisé en ce moment. C'est-à-dire là, et puis de tous les gens qui étaient censés venir en France à travers le programme PAUSE. Quoi. C'est les essentialiser tous, dire que potentiellement tous, ils pensent comme ça, etc. C'est du voilà. Là, on est dans le racisme aussi, en fait. On est dans la discrimination de tout un peuple qui, en ce moment, est en train de subir un massacre de masse. C'est ça le plus grave, voilà. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à la colère, etc. Machin, et on la ressent. Mais par contre, il faut rester maître voilà, de ce qu'on dit et de ce qu'on transmet. On ne peut pas appeler à la violence comme ça. Ce n'est pas trop un sujet sur lequel j'ai envie de m'étendre parce que, encore une fois, je n'ai pas regardé son... Je n'ai pas été fouillée.
Oui, il manque aussi des éléments, mais j'ai eu l'impression que, de nouveau, c'était un prétexte. Et puis, dès qu'il y a un petit truc sur lequel un os sur lequel on peut ronger, chacun se précipite. C'est surtout ça.
Ah, mais bien sûr. C'est une Sword of Solomon, il est très organisé. D'ailleurs, il a donné une interview au Point récemment dans laquelle il explique à quel point il est très organisé. Il dit « je suis sur tous les terrains, maintenant je crois qu'il a une équipe ». Voilà, c'est son job en fait, il fait ça, c'est-à-dire essayer de traquer le moindre Palestinien qui a dit une connerie quelque part pour essayer de stigmatiser tous les Palestiniens et de les priver ici aussi d'aide, voilà. Il a réussi en tout cas là, puisqu'il a, grâce à cause de ce qu'il a fait, il a une punition collective pour tous ceux qui auraient pu bénéficier d'une pause en France et de pouvoir s'exiler ici le temps que le massacre se termine. Voilà. Mm-hmm.
Alors, moi, quand donc j'étais au Caire là, pour la marche globale, j'ai rencontré des Palestiniens et eux me disaient leur plus grand danger, au-delà de toutes les ignominies qu'ils vivent, c'est l'effacement. C'est-à-dire qu'on les considère comme des nombres, que ce soit des statistiques, en fait, qui perdent leur visage, qui perdent leur histoire et leur expérience en tant que peuple. Et du coup, bah, moi, j'étais très intéressé depuis longtemps à tes travaux parce que tu as essayé de mettre en lumière pourquoi nos médias étaient incapables de rattraper finalement la peine qu'on leur faisait subir, quand je parle d'Israël, des États-Unis, de l'Angleterre, en fait, tous les pays occidentaux, mais comment nos médias jouaient un rôle dans ce même effacement. Et voilà, qu'est-ce que tu as découvert? Et je pense que c'est un levier très important parce que plus j'avance, plus je me rends compte que pour perpétrer un génocide, il faut assembler un puzzle qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire, mais qu'il y a énormément de piliers qui font que des actes comme ça peuvent être tolérés. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Et les médias, évidemment, sont un levier très important, un élément très important dans la construction du génocide.
Bien sûr, ils ont été l'escorte du génocide.
Alors, toi qui es journaliste indépendante, tu as étudié là-dessus, donc est-ce que tu peux nous parler de ce levier-là ou
Oui.
comment ça s'est mis en place gentiment, cette tolérance face à l'indicible dont on essaie de décrire
Alors,
le moment?
alors, tout projet colonial porte en lui intrinsèquement une intention génocidaire. Ça, c'est pour. Oui? Tu m'entends?
Ah, t'as perdu un. Ouais, c'est bon, t'es revenu. Ça a juste coupé 5 secondes. C'est bon, tu peux
Ok.
reprendre.
Je disais que tout projet colonial porte en lui une dimension intrinsèquement génocidaire, puisqu'il s'agit d'effacer un peuple, de le coloniser, d'exploiter sa terre, de s'approprier sa terre. Voilà. Le projet israélien colonial est un projet colonial de grand remplacement. Ça fait la différence avec par exemple la colonisation française en Algérie, où les Français qui vivaient en Algérie, les colons, étaient une minorité. Le projet israélien est de remplacer le peuple palestinien, de prendre sa place et de se prétendre le peuple autochtone de cette terre à la place du peuple autochtone qui est le peuple palestinien qui était avant l'établissement d'Israël un peuple composé de musulmans, de chrétiens, de juifs, d'autres communautés, de druzes, etc. Et le projet colonial israélien, depuis le début, a pratiqué le nettoyage ethnique de la Palestine. D'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage de Ilan Pappé, enfin, qui fait partie des nouveaux historiens israéliens et qui a déconstruit totalement le narratif israélien d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre et qui a expliqué que c'est une histoire de nettoyage ethnique depuis le début, initiée par les milices sionistes terroristes avant 1948 et puis poursuivie ensuite avec la mise en place de l'armée israélienne régulière. Dont les ancêtres sont les milices terroristes qui étaient l'Irgun, la Haganah et le Lehi. Et donc le processus de faire disparaître le peuple palestinien ne date pas du 7 octobre 2023. C'est-à-dire le programme de nettoyage ethnique, quel que soit de n'importe quelle façon, par le déplacement, par le massacre, etc., est le projet israélien depuis le premier jour de l'établissement de l'État d'Israël. Et donc, comment parvenir à ça? Donc, comment avoir le consentement pour répondre à ta question, comment acquérir le consentement au génocide de la part du reste du monde? Eh bien, en déshumanisant le sujet colonisé, le peuple palestinien. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait le moins de compassion possible pour ce peuple. C'est la fabrique du consentement telle que décrite par Hermann et Chomsky, c'est-à-dire faire en sorte que comment dire, l'empathie, avoir comment dire, quand, digne d'intérêt, qu'une victime digne d'intérêt, il y a des victimes présentées comme dignes d'intérêt, des victimes présentées comme pas dignes d'intérêt. Le peuple palestinien, ils ont fait en sorte qu'il soit présenté comme pas digne d'intérêt. Et pour ça, il y a plusieurs leviers. Les gouvernements israéliens, et c'est principalement Netanyahou qui a réfléchi à cette stratégie, a fait en sorte de islamiser ou de donner un visage islamiste, religieux, fondamentaliste à la résistance palestinienne, qui au départ n'est pas du tout dans cette voie-là, qui est laïque au départ avec l'OLP, Yasser Arafat, etc. Et le gouvernement israélien a facilité l'expansion, le renforcement du Hamas et de la résistance à visage islamiste. Et c'est une grande réussite de Netanyahou qui a bien vu les choses arriver, puisqu'il dit d'ailleurs le 11 septembre ça nous arrange, le 11 septembre 2001 il dit ça arrange les affaires israéliennes, parce que du coup les gens ils vont voir une ressemblance entre le terrorisme djihadiste, islamiste type Daesh, Al-Qaïda, etc. et ce que nous avons en Palestine, c'est-à-dire Hamas, etc. Mais en fait, c'est juste une question de cosmétique. Hein. C'est très malin, puisque physiquement, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Si vous regardez un mec d'Al-Qaïda, un mec de machin, c'est des Arabes, en gros, c'est des basanés, barbus, et qui font peur, et voilà, c'est bien. Donc, quelqu'un qui n'a pas très bien suivi, il se dit « Ah, c'est la même chose, en fait. » Or, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça a été, en Palestine, le gouvernement israélien, bon, ça, c'est documenté, moi, je longuement documenté dans mon livre, le gouvernement israélien a tout fait pour faciliter l'expansion du Hamas, donner de l'argent au Hamas, pour à la fois donner ce visage islamiste repoussant devant le reste du monde et diviser la résistance palestinienne et les dirigeants palestiniens. Donc, vraiment, il a gagné sur tous les terrains et c'était très intelligent et très, très malin de la part du gouvernement israélien de faire cela, puisque ça a fonctionné. Ça a permis de casser la représentation palestinienne en deux. Vous avez d'un côté maintenant le Fatah et de l'autre côté Hamas. Fatah en Cisjordanie et puis Hamas à Gaza. Et diviser pour mieux régner, ça a bien marché. Et puis donner ce visage islamique. Et évidemment, Israël ne cesse de provoquer les Palestiniens. Toujours, hein, il y a toujours des provocations dont vous n'entendez jamais parler dans les médias. C'est-à-dire que vous n'entendez que Israël riposte à quelque chose, toujours. Vous remarquez, jamais. Moi, j'ai travaillé en plus dans des médias et je me suis battue d'ailleurs, même à RT à l'époque, pour qu'il ne soit pas écrit représailles, riposte, etc. C'est parce que c'est présenté toujours comme c'est les Palestiniens qui attaquent les premiers. Alors, ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est Israël qui a attaqué le premier depuis le début, c'est-à-dire qui a commencé. Ce n'est pas le peuple qui était là chez lui tranquille, c'est celui qui est venu le coloniser et l'occuper. Donc déjà, ça, c'est la base. Quand on se place au point de vue du dominé, si on n'a pas compris ça, c'est qu'on est de l'autre côté.
Ouais, c'est compliqué.
Et c'est simple.
On ne m'a pas vu, c'est pour ça. C'est compliqué de discuter avec quelqu'un qui n'a pas la base de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire un occupant, un occupé, un oppressant, un oppressé, un oppresseur. Et tant qu'en fait, on ne lit pas la situation avec cette grille de lecture, en fait, c'est pour ça que c'est souvent très stérile et puis ça va nulle part. C'est en cela où je disais, c'est compliqué de parler hors de ce contexte-là, en fait.
Je comprends. Et oui, donc c'est ça. La façon, ils arrivent toujours à faire des provocations parfois qui passent discrètement, genre le Premier ministre ou qui va aller sur l'esplanade des mosquées, etc. Et puis les Palestiniens, ensuite, ils vont envoyer 2-3 roquettes. Et puis après, guerre, bombardement massif, des milliers de morts, etc. Et puis vient le 7 octobre 2023 et cette agression qui est présentée comme une guerre réparatrice de ce qui s'est passé le 7 octobre, parce que c'est le Hamas qui a commencé, qui porte la plus grosse responsabilité dans ce que vivent les Palestiniens. Et en gros, si Israël a la main lourde là depuis le 7 octobre 2023, c'est de la faute du Hamas qui l'a provoqué. Voilà, c'est lui, il aurait dû savoir, etc. Le Hamas, bien sûr, a décidé cette attaque de grande envergure le 7 octobre 2023. Mais c'est suite à 16 ans de blocus sur Gaza et 75 ans de colonisation de la Palestine, d'occupation, d'oppression, etc. Et le blocus de Gaza, bon, ça aussi, c'est décrit en long, en large dans mon livre et partout où on s'informe correctement. C'était un blocus inhumain, voilà, et ils prétendent, ils mentent H24 en disant que Gaza n'était pas occupé, n'était pas colonisé, parce qu'ils ont retiré les colons en 2005, mais Gaza était occupé factuellement, et d'ailleurs elle est considérée dans le droit international comme un territoire occupé. Il y avait un blocus maritime, terrestre et aérien, rien ne rentrait, ne sortait de Gaza sans le contrôle israélien. Les pêcheurs ne peuvent pas aller pêcher au-delà d'un certain, un certain nombre de kilomètres au large. Voilà, le peuple palestinien était sous perfusion déjà de l'aide humanitaire parce que tout était bloqué. Il n'y avait bien sûr pas moyen d'avoir des échanges. C'était une situation de blocus. Et le Hamas prend cette responsabilité de cette attaque d'envergure. Évidemment, il fallait s'attendre à ça, mais je veux dire, le premier responsable des morts à Gaza, c'est Israël, c'est pas Hamas. C'est-à-dire c'est de la communication israélienne. Je dis ça parce que j'ai vu un article de Jean-Pierre Filu, soi-disant ami de la Palestine, qui a écrit une tribune dans Le Monde il y a 2 jours qui s'appelle l'écrasante responsabilité du Hamas, où il reprend le narratif israélien en fait. Et en gros, où il dit c'est de la faute du Hamas en fait. Si on en est là, c'est les Palestiniens. Voilà. Ça, c'est le narratif israélien, typique. C'est la Hasbara, c'est vraiment le voilà. Et ça permet de créer le consentement, ça aussi. C'est-à-dire que, j'ai pas oublié ta question, hein, donc c'est oui, déshumanisation, présenter la résistance palestinienne avec un visage repoussant à sa victoire de Netanyahou. Quand Israël génocide, c'est de la faute du Hamas, c'est pas. Voilà. C'est-à-dire que si en gros le texte de Filu, c'est si les Palestiniens se font massacrer, c'est parce qu'ils ont mal choisi leurs dirigeants, comme s'ils avaient vraiment pu choisir leurs dirigeants en plus. Tout est vicieux, tout est voilà.
Mais ça, on peut le comprendre de la part d'Israël, si on observe un peu. Bon, à la limite, on peut dire qu'ils défendent leurs intérêts, à mon avis, pas du tout, hein, parce que c'est un suicide de cet État. Tu ne peux pas agir de manière complètement sociopathique et croire qu'après, tu vas vivre heureux sur le territoire que tu convoitais et qui n'était même pas à toi. Mais bref, à la limite, je peux comprendre tous ces mensonges, toute cette construction de la narration que fait Israël. On l'a toujours vu, ça a toujours été une approche. Si tu lis même les premiers fondateurs, Herzl et autres, ils l'avaient expliqué que tout ça devrait se passer. Là où c'est plus difficile à comprendre, et c'est là où je souhaite avoir aussi un peu plus ton expertise, c'est pourquoi les journalistes et les médias occidentaux reprennent si facilement ces mensonges dont tu viens d'en évoquer en partie les plus gros. Comment ça se fait qu'on prenne ça moi, j'ai pris tellement de copies d'écran là à chaque fois, c'est marqué « Netanyahou a dit, Tzahal annonce ». C'est comme si on faisait du copier-coller, en fait, de Israël, alors qu'ils sont belligérants. Donc, même à la limite, est-ce que je croirais qu'ils ont raison? Si je voulais faire un tout petit peu de travail objectif, j'arrêterais de faire du copier-coller, quoi. Et là, c'est vraiment, les rideaux tombent, ils répètent, c'est verbatim.
Ouais, ouais.
Et ça, moi,
En fait, la France, a une histoire particulière, puisqu'elle a participé à la création d'Israël activement. Et donc, il y a c'est le point de vue fondamental. C'est-à-dire qu'ici, on part du principe que, voilà, Israël est un État légitime, qui a le droit de se défendre, etc. Et donc la base de l'histoire est fausse. Donc quand au départ on part d'informations fausses présentées comme la vérité, eh bien après il faut tenir un narratif, il faut suivre en fait, il faut essayer d'être cohérent par rapport à ce narratif. Il faudrait corriger le narratif de départ. Le narratif de départ, c'est que Israël est un État colonial qui a été établi sur une terre où il y avait déjà un peuple, où on n'a pas consulté ce peuple pour établir un État juif qui se prétend démocratique, mais il ne peut pas, puisqu'il ne peut pas être et juif et démocratique, ça, ce n'est pas possible, il faut choisir. Et ensuite, Israël a le droit de se défendre, puisque Israël a été attaqué voilà, de manière monstrueuse, c'est comme ça que c'est présenté, Israël a le droit de se défendre, et donc l'agression sur Gaza était présentée comme Israël a le droit de se défendre. D'ailleurs, on a eu Macron qui est allé à Tel Aviv embrasser son cher Bibi, entre guillemets, et en disant Israël a le droit de se défendre, c'est une cause juste, point final, le 24 octobre 2023. Donc, il lui a donné un blanc-seing. Mais Israël a le droit de se défendre, ça n'existe pas dans le droit international. C'est pas, Israël n'a pas le droit de se défendre contre un groupe, même hostile, même terroriste, que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais émanant d'un territoire qu'Israël occupe. Israël doit cesser d'occuper ce territoire. C'est ça, en fait. Donc, en fait, dès le premier jour, si on avait des dirigeants qui tiennent la route, il faut dire cesser l'occupation. Cesser la colonisation. Et c'est ça qui aurait dû être dit. Mais comme le narratif n'est pas celui-là, et ben voilà. Et puis les médias dominants sont, comme dit mon compagnon, les médias dominants aident les dominants à dominer. C'est ça leur travail, en fait. Et quand là, depuis que Macron a changé un peu son fusil d'épaule, ben, vous avez remarqué que les médias dominants ont un peu changé leur narratif et sont un peu plus, voilà. Ils continuent évidemment à inviter l'ambassadeur d'Israël, le porte-parole de l'armée israélienne, avec un peu plus de contradictoires qu'au début, on remarque, mais voilà, il y a une petite évolution, parce que là, on a le président qui essaye de faire quelque chose. Voilà. Mais si les Français n'étaient pas désinformés comme ils le sont, normalement, dès le premier jour, dès le 7 octobre, on dit Israël doit cesser l'occupation de Gaza, que le 7 octobre, c'est de la faute de ce qui est de l'occupation, du blocus, etc., c'est tout. Cesser le feu, en fait, comme on dit, la Colombie, l'Algérie, la Chine, voilà, les pays qui voient les choses dans le bon sens de l'histoire. Je ne dis pas que ce sont forcément, enfin, je n'ai pas de commentaire à faire sur ces pays-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui, dès le 7 octobre, disent si c'est le feu, si c'est l'occupation, si c'est la colonisation. C'est ça, la cause. Le génocide, il est annoncé. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Gaza, génocide annoncé, de Gilbert Achecart. Pas mal. J'ai des choses à redire, mais c'est clairement un spécialiste de la question, contrairement à Jean-Pierre Philippe. Et donc, je doute franchement que ce soit un spécialiste, ou en tout cas un ami sincère de la Palestine. Ça j'ai plus qu'un doute. Oui, le génocide était annoncé. C'était évident, en fait. C'est le 9 octobre, moi, j'ai écrit génocide sur Twitter, je savais. J'ai dit, ils annoncent un génocide, là. Quand Yoav Gallant annonce le siège total de Gaza après 16 ans de blocus, c'est évident qu'on va au-devant d'un génocide et que personne ne va les arrêter. Enfin, on a bien vu tout de suite. Donc, ils ne peuvent pas être surpris. En fait, ils ne sont pas surpris là-haut. Hein. Là-haut, c'est juste qu'ils nous prennent pour des cons. C'est ça, il faut quand même, à un moment donné, se réveiller. Ils ne sont pas du tout surpris. Macron, il sait très bien ce qu'il fait quand il dit « c'est une cause juste, point final, allez-y, massacrez, défoulez-vous ». Et au bout d'un moment, il dit « oh, stop, attends quand même, ça commence à être un peu beaucoup ». Mais ils savent, le génocide, enfin, je veux dire, il n'est pas tout seul. Il a des gens au Quai d'Orsay, il y a des spécialistes de la région. Ils connaissent.
Je pense qu'il y a que le biais idéologique, c'est-à-dire que historiquement, voilà, on était de ce côté-là, on a d'une certaine manière contribué à. Il y a aussi peut-être le
biais. Non, il y a
historique.
Pardon ?
Le biais du fait qu'on imagine qu'on ait une responsabilité historique, comme on a massacré des juifs aussi comme des fous.
Ah oui, oui, bien sûr, c'est ça. Bien sûr.
On s'en lave les mains, là.
Voilà. Il y a... Ah bah, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire c'est expier les crimes commis par des Européens ici en Europe sur les Juifs, sur le dos des Palestiniens. C'est-à-dire qu'Israël peut faire tout ce qu'il veut aux Palestiniens parce que c'est un État qui se présente comme juif et qu'il y a cette culpabilité, bien sûr, européenne vis-à-vis des Juifs, en fait. Et donc... On part du principe que fondamentalement, un État juif, c'est quelque chose de positif. Et cet État en particulier, puisqu'il a eu la bonne idée de ne pas s'établir chez nous, mais d'aller s'établir chez les Arabes. Et massacrer les Arabes, de toute façon, on a l'habitude. Donc, bon, voilà, il y a une espèce de... C'est délirant, vraiment. On est dans un... Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, non ?
Non, ça marche, ça fonctionne.
Ça marche ? Ok. Parce que, oui. Moi, j'ai un truc... Oups. Bon, ok.
Oui, ça apparaît.
Ah, c'est peut-être le chat.
C'est possible.
C'est dans les gens, ils se rendent même pas compte. C'est dans le niveau de culpabilité vis-à-vis des Juifs. Bon, c'est totalement compréhensible eu égard à l'histoire des Juifs en Europe qui est ce traumatisme, etc. Mais trouver normal de faire payer ça et qu'un État qui se prétend juif en Palestine, colonial en Palestine, puisse faire n'importe quoi au nom de ce que nous, on a fait ici en Europe aux Juifs, non, mais c'est...
D'accord.
À un moment donné, il faut se réveiller par rapport à ça. C'est le niveau d'indifférence vis-à-vis d'un peuple qui est chez lui. C'est quand même... Il faut se poser des questions.
Bien sûr. Mais
on peut pas prétendre avoir de l'éthique vis-à-vis des Juifs et ne pas en avoir vis-à-vis d'autres êtres humains, quoi. Et c'est à ça qu'on assiste de manière éhontée, de manière flagrante, quoi. Ouais.
Mais là, j'avais pas beaucoup de surprises parce qu'on a vu le comportement depuis des décennies. Enfin, on l'avait vu venir. Et puis après, on a eu la confirmation avec le Covid. On a eu la confirmation avec l'Ukraine aussi par rapport à ces partis pris de nos institutions politiques ou médiatiques. Mais moi, ma question, c'est que moi, j'ai l'impression que ce qu'on dit là, c'est relativement inconscient parce qu'il n'y a personne qui va t'expliquer comme ça en disant « Oui, je me sens coupable, c'est pour ça que tu vois, je soutiens le projet sioniste parce que je sais que mes grands-parents, ils ont eu une responsabilité. » Il n'y a personne bien dans sa tête qui va parler comme ça. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de sous-jacent. Et moi, ma question, c'est toi, comme tu étais dans le monde des journalistes, quand tu es confronté ou quand tu étais... avec tes collègues ou tes pairs, je ne sais pas comment tu les appelles, comment ils arrivaient à réconcilier ça, enfin, comment ils en parlent, parce que je ne pense pas que c'est ça qu'ils disent, ce manque d'objectivité, ils ne disent pas non, je vais me ranger derrière le président ou non, on a quand même une dette à payer. Enfin, comment, tu vois ce que je veux dire?
Moi, je t'avoue que je n'ai pas trop de relations dans le milieu qui pensent comme ça. J'en ai pas, en fait. Je ne suis pas confrontée à ces gens-là. Depuis le 7 octobre 2023, j'étais déjà indépendante, donc j'étais la majorité du temps, je travaille de chez moi ou voilà, j'allais là où je les ai vus, c'est à l'Élysée et au Quai d'Orsay. C'est-à-dire quand je suis allée questionner les porte-paroles du gouvernement, c'est là que j'ai vu les confrères. J'ai vu leur silence surtout, en fait. C'est leur silence, leur indifférence vis-à-vis de Gaza. À l'Élysée, pendant toute la période où moi je suis allée, j'étais pratiquement la seule journaliste à poser des questions sur la Palestine. C'était un non-sujet. Et poser des questions sur l'Iran, sur l'Ukraine, etc., mais jamais sur la Palestine. Au Quai d'Orsay, un peu plus, bien sûr, mais voilà, toujours dans le cadre établi.
Ça les mettrait en danger? Ils risqueraient quoi, techniquement?
Ah oui, bien sûr. Ah ben ça, c'est évidemment. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, des journalistes qui ont essayé de contredire le porte-parole de l'armée israélienne, notamment Mohamed Kassi de TV5 Monde. Il a failli se faire virer s'il n'avait pas eu le soutien de sa rédaction. Il a failli se faire virer pour juste avoir recadré dans une interview de manière très polie et très posée le porte-parole de l'armée israélienne qui l'agressait, en fait. Et bien sûr, oui, vous risquez votre poste si vous êtes trop à vouloir informer de manière juste et suffisante par rapport à ce que vous estimez être le nécessaire. Oui, vous risquez...
La vérité, c'est ça, qu'ils ont peur pour leur poste de travail, pour leur revenu.
Je pense, oui, je pense qu'il y a ça. Je pense aussi qu'il y a cette peur, cette l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Les gens ont peur d'être traités d'antisémites parce que votre carrière est terminée. Et si vous n'êtes pas assez solide, si vous n'êtes pas assez connaisseur, moi, je suis très à l'aise avec ça, en fait. Je n'ai pas de problème avec ça parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais par rapport à ça. Je connais bien le sujet et quand on maîtrise bien le sujet, on n'a pas ce genre d'angoisse. C'est peut-être pas le cas de tous les journalistes, ça se comprend, ils sont peut-être pas spécialistes du sujet, mais même ceux qui commencent à connaître sont terrifiés d'être traités d'antisémites parce que c'est terminé pour vous si vous êtes qualifié d'antisémite. Et vous avez remarqué, tu as remarqué que dès que tu parles de la Palestine, tu es traité d'antisémite. Quoi que tu dises, il y a une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme qui est faite de manière grossière, gros sabots, ridicule. Maintenant, les gens... Maintenant, bon, ça a tellement été utilisé à tort et à travers que les gens, ils prennent même plus au sérieux, en fait, quand on les traite d'antisémites. Oui. Mais dans la corporation, chez les journalistes, ça reste un grand problème. Et je sais, par exemple, que dans certaines rédactions, dans des grandes rédactions, il y a eu des cellules psychologiques après le 7 octobre 2023, parce que les gens étaient terrifiés d'écrire sur le sujet et de peur d'être traités d'antisémites. Donc, il y a eu des psys qui se sont pointés dans les rédactions pour assister les journalistes pour qu'ils puissent s'en sortir et écrire.
Ils ont moins peur d'être taxés d'islamophobes. Hein. Tu as remarqué, là, il n'y a plus besoin de... Là, ils n'ont pas besoin de psychiatre et autres. Alors non, moi, je suis pas, on m'a pas taxé d'antisémite, en tout cas pas depuis que je fais ce podcast. Il y a
Ah
une
bon?
dizaine d'années en arrière, ouais, jamais. Il y a une dizaine d'années en arrière, parce que là où je vis, il y a un festival de chaque année, d'ailleurs, c'est en ce moment, ça s'appelle Les Livres sur les quais, où beaucoup
Parce que tu es
d'auteurs.
suisse, en fait, en Suisse, les gens sont plus tranquilles, non?
Ouais, je pense, il y a moins
N'y a
cette
pas la même hystérie.
culture du clash, effectivement. Mais quand même, hein, je veux dire, moi, à mon avis, c'est plutôt dû au fait que je suis trop petit pour être détecté. Donc, le jour où il y aura un petit peu plus d'impact, il y a de fortes chances que je reçoive ces mêmes insultes. Très bien, je suis assez privilégié pour pouvoir les recevoir. Mais c'était donc à ce livre sur les quais, là, avec ses auteurs, il y avait Finkielkraut qui était venu faire son livre. Puis c'était en plein génocide aussi actif, hein, parce qu'il faisait une pause un peu toutes les quelques années, mais tu sais, il y avait chaque année des opérations pour, comme disait Norman Finkelstein, tondre le gazon. C'était pendant une de ces périodes-là. Et du coup, j'avais vu passer une émission, il était encore scandaleux, puis je suis allé vers lui, puis j'ai dit, Monsieur Finkielkraut, comment vous expliquez que dans vos propos, on entend une peine comme ça face à la souffrance israélienne, mais quand la même est visible du côté palestinien, par exemple les enfants, là, on ne vous entend pas. Est-ce qu'un enfant palestinien, pour vous, a la même... Et là, il ne s'est pas passé 10 secondes avant qu'il commence à s'énerver tout rouge, il est devenu rouge, et puis qu'il me pointe la main.
Taisez-vous! Il n'a pas dit taisez-vous!
Mais c'était quasiment comme à la télé, il me disait antisémite, antisémite! Comme quelqu'un de possédé, en fait. Ça m'a assez surpris. Et puis,
Je
je
comprends
sais
même
pas.
pas que ça fonctionne en fait. Je comprends même pas, c'est tellement ridicule, pathétique
Oui,
que
alors effectivement,
je
c'était
comprends même pas que ça
vraiment un
fonctionne. Il y a
peu
quelqu'un qui dit dans le
quelqu'un.
chat que j'ai pas répondu sur les journalistes. Apparemment, ma réponse n'était pas
Bon, on
assez
va.
complète. Non, je voulais
D'accord.
ajouter juste que il y a un paramètre aussi quand je suis allée à l'Élysée et tout. C'est que, en fait, pour beaucoup de journalistes mainstream que j'ai vus là-bas, en tout cas, c'est le même monde. Ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews. C'est le même monde que les conseillers du président, que le gouvernement. En fait, c'est des gens qui viennent du même milieu social ultra favorisé, qui ont fait les mêmes écoles et qui, finalement, à la fin des études, font soit conseiller à l'Élysée ou dans les ministères et soit journaliste. Et donc, c'est des gens qui se connaissent bien, qui se tapent sur l'épaule, qui se tutoient, qui boivent des verres ensemble. C'est le même monde. Donc, il ne faut pas s'attendre à autre chose que ce qu'on a au gouvernement, que voilà, que cette oligarchie que nous avons au gouvernement et qui est, bien sûr, totalement favorable à Israël.
Donc ouais, j'entends aussi la préservation d'un intérêt partagé, mais aussi individuel. Genre, j'imagine quand tu es là-bas, tu as ta petite entrée, tu as ta petite place, tu as ton petit accès aux personnes qui pourraient te
Ouais,
donner.
c'est des relations que tu noues ou pas. Moi, j'ai pas trop noué de relations, comme tu te doutes, avec les conseillers et tout, mais j'ai observé qu'il y avait, ouais, y a une connivence, clairement. Il y a par exemple une journaliste qui s'est mise à s'énerver un jour pendant que je posais une question à la porte-parole du gouvernement parce qu'elle trouvait que je l'emmerdais en fait, que j'emmerdais la porte-parole, que j'emmerdais la ministre. Donc c'est une journaliste d'une grande radio qui s'est mise à m'engueuler enfin à gueuler pendant que je posais ma question. Moi je l'ai pas vue. Et après on s'est expliqué. Et elle m'a presque Il m'a dit, on n'est pas des confrères, on ne fait pas le même métier et tout. Et puis je l'ai vu un autre jour en train de rigoler avec la ministre. C'est sa pote, quoi. Voilà, il y a des gens. Et voilà. Il y a un autre journaliste qui nous a dit à mon ami Jamie et moi, il nous a dit, mais vous ne vous rendez pas compte le stress que vous engendrez à la ministre quand elle vous voit dans la salle du porte-parole. Voilà, je vous jure, hein, c'est fou. On
Oui,
est dans un. C'est le même monde. Donc voilà. Quand
non,
vous
mais effectivement,
avez.
je crois que c'est pas le même métier. Moi, j'avais eu ce problème. Je suis pas du tout journaliste, je me qualifie pas comme tel, mais pourtant, j'ai aussi des clashs avec des journalistes où je pose simplement une question et je dis, eh ben, moi, j'estime que par exemple, pour Julian Assange, ben, vous n'avez pas fait votre travail de protection de votre propre profession. Et elle s'est tout de suite complètement énervée, ce qui d'ailleurs. Me donne raison parce que quand quelqu'un s'énerve à la peine, je pose une question. En général, ça veut dire qu'elle n'est pas à l'aise avec la chose qui se cache derrière. Et puis
Ben c'est
pareil,
ça,
elle me dit, Moi, j'ai dit, mais est-ce que le journalisme ne devrait pas être le quatrième pouvoir? C'est le 4 ou le 5e? Et puis, elle m'a dit, non, mais pas du tout. Je dis, alors, effectivement, on ne comprend pas le métier pareil.
Voilà, c'est ça. J'ai eu un peu la même discussion avec des gens à l'Élysée, ouais. Sur Assange aussi, bien sûr, sur l'affaire Assange que moi j'avais suivi de près, ça a été un naufrage total de la profession. Et souvent, c'est les agences, l'AFP qui donne le là, qui va donner, pour ceux qui connaissent pas trop l'affaire, parce qu'il faut pas croire que les journalistes sont tous des spécialistes de ce qu'ils écrivent, hein. Souvent, il y a beaucoup de bâtonnage. Qu'on appelle
Non,
dans
mais
le
ça
métier le bâtonnage de
c'est
dépêche et tout, et c'est souvent les grands médias qui donnent le là. Et donc, quand l'AFP va calomnier Assange, eh ben, il va y avoir une reprise des milliers de fois. Et voilà. Et par exemple, sur Gaza, quand l'AFP écrit guerre Israël-Hamas, eh bien, tout le monde reprend guerre Israël-Hamas, alors que c'est un génocide. Voilà. C'est ça.
alors là. La pression populaire, quand même, grandit de plus en plus parce que je crois que en fait, on peut plus. Ça commence à prendre trop d'énergie, si je peux dire ça comme ça, que de mettre la tête dans le sable pour ceux qui le font. Et évidemment, ça a un impact sur nos pseudo-élus, pas parce que tout d'un coup, ils trouveraient leur bonne conscience, mais parce qu'ils comprennent qu'il pourrait y avoir des
Ouais.
conséquences. Je pense. Et d'ailleurs, il faudra qu'il y en aille, hein, quoi qu'il arrive. Ces gens devront passer devant les tribunaux un jour. C'est mon plus grand espoir, on verra. Mais effectivement, là, il y a des. Ça reste très, comment tu dis, hein, microscopique, mais il y a des mots qui laisseraient à penser qu'il va y avoir des actes. Alors, je voulais. C'est encore loin, hein. Puis chaque fois c'est des projections, puis à mon avis ils essaient de gagner du temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à défendre. Ça a toujours été leur stratégie, parce que ce sont des lâches. Mais là, par exemple, prenons un exemple concret, la reconnaissance de la Palestine par la France, l'Australie, le Portugal, l'Angleterre et d'autres, est-ce que tu vois ça comme un acte qui va dans l'avant vers quelque chose qui enfin se trempe pour essayer de la résoudre ou pas du tout?
Alors, déjà, je recommande à vos lecteurs de lire, à vos spectateurs, de lire le dernier article de Raphaël Maison sur Orient 21 paru hier sur ça, sur la question que tu viens de poser. Donc là, vous avez une spécialiste de droit international, la professeure Raphaël Maison, qui développe cela. Et bon, c'est déprimant, hein, c'est bien sûr qu'il n'y a rien de positif, puisque la contrepartie à cela, à cette reconnaissance de l'État de Palestine, et c'est ce que veut obtenir la France et, à mon avis, l'Arabie Saoudite, c'est une reconnaissance d'Israël par tous les pays arabes. D'ailleurs, ils trépignent, hein, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, voilà, le génocide est venu stopper net les accords d'Abraham et la normalisation officielle, parce que officieusement, c'est normalisé, hein, avec ces pays-là. Et
Ouais.
donc c'est ça la contrepartie. Donc bon, bien sûr, ça n'est pas du tout dans l'intérêt des Palestiniens. C'est un État. C'est quoi? C'est quoi cet État? C'est-à-dire qu'on est dans une situation. Il n'y a aucune sanction de prévue contre Israël. C'est un État palestinien démilitarisé. À quel moment? Je veux dire, à quel moment les Palestiniens? Qui peut trouver normal que les Palestiniens aient un État démilitarisé alors qu'ils sont à la merci d'un État prédateur, colonial, sur leur terre, surarmé, où les gens
Ouais,
ils se baladent avec des kalachnikovs dans la rue, et
sans
eux, ils
parler
seraient démilitarisés. C'est-à-dire, c'est un peuple mineur, c'est un peuple, voilà.
sans
C'est
parler
vraiment.
de l'autodétermination qui est au fond de toute la problématique, parce qu'en fait, on n'a jamais permis aux
Voilà.
Palestiniens d'avoir ne serait-ce qu'un seul mot à dire sur l'espace, le lieu, le pays, l'État,
Ouais, c'est ça.
le territoire sur lequel ils vivent,
C'est ça.
en fait.
Ouais.
Donc moi, j'ai quand même l'impression que c'est un moment
Mais,
qui de
ouais.
temps. Donc, je
Pardon?
pense que c'est faut faire
Je t'ai
attention à
entendu.
pas s'arrêter à ça. C'est demandé par la communauté palestinienne, cette reconnaissance, elle est demandée depuis très longtemps. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, pourquoi on a toujours dit on reconnaît
Allô? Je t'ai perdu. Je sais pas si vous m'entendez.
On veut une solution à deux États et on reconnaît Israël. Je crois qu'on a Arnaud. Le réseau n'est pas très bon. Ça va? Tu es
C'est
encore là?
là, ça
Bon.
va, mais ouais, je t'ai perdu pendant un moment, hein.
Voilà, donc très brièvement, je disais, apparemment, tous les pays occidentaux se disent en faveur de la solution à deux États. Mais dans cette solution à deux États, ils ont toujours reconnu un État et pas l'autre, jusque maintenant. Ça a toujours été comme ça. Donc déjà, au niveau mathématique, c'est un peu bizarre, si tu veux. C'est pas complètement bizarre, c'est complètement taré de penser comme ça, de ne pas avoir fait avant. Et la Suisse, complètement, la Suisse est toujours dans cet état de fait-là où elle dit non, 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 ce n'est pas le bon moment de reconnaître. Et
Jamais le bon
Netanyahou
moment.
dit, si vous faites ça, vous allez déstabiliser la région.
Ouais.
Donc, il y a un génocide et le mec, il dit, si vous faites
Ouais.
ça, vous allez déstabiliser. Enfin bref. Ceci mis à part, les ressortissants palestiniens, la communauté palestinienne a toujours appelé à la reconnaissance d'un État palestinien. Alors, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, effectivement. Et on attend que, en fait, ça soit plus possible pour vraiment le reconnaître. Ça, je l'admets. Mais moi, je pense quand même que ce n'est pas un pas dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que ça ne fait pas grand-chose, mais que tout le monde reconnaisse la Palestine, je vois pas ça comme un mal, à condition, évidemment, qu'on ne s'arrête pas là, puis qu'on ne décide pas à la place des Palestiniens. Quel type d'État, avec quelles institutions, etc., par qui elles sont nommées, se fasse. Effectivement, si c'est pour dire oui, on veut un État, mais démilitarisé, etc., ça c'est du bullshit. Et puis, en 100 ans, ça ira pas très loin. Mais voilà un petit peu ma
Il y a
position.
déjà plus de 145 États qui reconnaissent la Palestine, 145 pays qui reconnaissent la Palestine. Donc ça, c'est en fait c'est une minorité de pays qui l'a pas encore reconnu là, qui veut le reconnaître. Comme dirait Marc, que je salue, un monsieur qui est venu à une de mes rencontres dans une librairie à Sète, reconnaître deux États, c'est reconnaître la colonisation. Voilà, c'est ça. C'est reconnaître que l'État d'Israël tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un État qui a volé les terres des Palestiniens, qui les a chassés, massacrés, etc., a une légitimité. Donc, bien sûr, moi, je m'oppose à la fausse solution à deux États. Bien sûr, les Palestiniens doivent être souverains et autodéterminés de la mer au Jourdain, et c'est ça la justice. Voilà, moi, évidemment. Mais comme tu dis, on peut quand même constater là que ça énerve beaucoup les Américains et les Israéliens, ce que fait Macron. Et donc, bon, bah, c'est toujours bon à prendre. Et on peut voir, j'ai fait un post d'ailleurs là-dessus sur Twitter en disant qu'il faut reconnaître que dans cette lâcheté de fausse solution à deux États qui finalement va servir Israël, mais comme ils sont jusqu'au boutistes et qu'ils ne veulent jamais entendre parler d'État palestinien, surtout pas de la part de leurs alliés comme la France, quoi. Ou les pays occidentaux, pour eux c'est juste un outrage, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont réussir à changer? Ça les énerve, ça énerve les Israéliens. Donc il faut reconnaître à Macron en ce moment une forme de résistance à l'intérieur de sa lâcheté. C'est-à-dire que comme il est face à des dirigeants complètement cinglés comme Trump et Netanyahou qui veulent faire une riviera de sang sur le génocide, eh ben, il a l'air d'être un peu un résistant face à ça. Mais bon. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois, quoi. C'est-à-dire, oui, on sent en ce moment, voilà, il a fait son dernier tweet, Macron fait de la résistance, entre guillemets, c'était un peu comique. Mais dans son dernier tweet, il dit, non, aucune offensive, parce qu'il le menace. Il menace, si tu reconnais la Palestine, on va faire une offensive sur la Cisjordanie, on va se venger sur les Palestiniens, on va annexer la Cisjordanie. Et il a dit, aucune offensive, rien ne nous arrêtera pour reconnaître la Palestine en septembre. Bon. Je suis étonnée quand même. Je dois reconnaître que c'est quand même, voilà, on a changé d'époque, mais parce que c'est le niveau de criminalité, la famine, le génocide, etc., ça a atteint des proportions où maintenant il faut choisir, soit tu vas dans les poubelles de l'histoire définitivement, soit tu essayes de sauver un tout petit peu la réputation de ton pays, quoi. Parce que je ne parle pas de l'âme de Macron, hein, il ne s'agit pas de sauver son âme, parce que s'il avait voulu la sauver, il y a longtemps qu'il l'aurait sauvée. Mais je veux dire au moins la réputation de la France, quoi, dans cette histoire.
Tu
Il fait
crois
même pas ça, hein, voilà.
que, au vu de la stabilité du gouvernement français actuel, tu crois que ce serait possible que finalement il y ait aussi d'autres forces qui rejoignent le mouvement, par exemple, du 10 septembre pour faire tomber tout le monde, de sorte à ce qu'il ne puisse pas y avoir une reconnaissance? Je me posais cette question-là. Est-ce que c'est vraiment acté? Parce que si tu veux, moi, les trucs d'annonce, ça m'énerve au plus haut point. Les gouvernements qui font des annonces. pourquoi vous ne dites pas « nous reconnaissons » Pourquoi vous avez besoin
de... Oui, bien sûr, ouais, c'est ça.
C'est insupportable.
Oui, non. Bon.
Je me demande si chaque fois, il peut y avoir des
bon, plans. C'est vrai que, par exemple, la guerre en Iran, l'agression israélienne sur l'Iran, là, récemment, eh ben, elle a reculé cette reconnaissance de la Palestine. Je te rappelle que ça devait être en juin. Donc, ça a été reculé à cause de la guerre en Iran. Donc, s'il se passe un truc ici, que tout pète, machin, et que c'est compliqué, mais je crois pas, logiquement, ça devrait pas empêcher, parce que, bon, il y aura toujours le ministère, le Quai d'Orsay, il sera opérationnel pour aller à New York, là, c'est bientôt, donc à moins de, voilà,
c'est dans 15 jours,
ce qui peut se passer, oui, pour arrêter le processus, normalement. Mais c'est un processus qui est creux, qui ne va rien changer à l'histoire. Mais au moins, sur le principe, il s'oppose à la Riviera, il s'oppose au nettoyage ethnique, etc. Donc ça, voilà, il a sauvé un peu le peu d'honneur qui nous restait ici, quoi.
Mm-hmm. Mm. Par rapport au débat avec les quels tons font-ils emprunter ? Parce que tu as vu, depuis le début, je suis sur... l'émotion et l'observation des faits. Mais puis avec toi, c'est facile de discuter puisqu'on est d'accord sur ce fondement qui est bah, il y a un occupant, il y a un occupé, il y a un colonisé, et puis il y a un colonisateur. Bon. Mais dans les médias, ça a reculé un peu parce que c'est vrai que historiquement, c'était toujours 100% Israël. Mais maintenant, dans les médias, on voit qu'il y a cette technique qui est celle d'opposer deux belligérants qui font des horreurs un peu tous les deux. Mais tu sais, c'est cette stratégie de appuyer.
Dos à dos, ouais.
Exactement. Et j'ai eu plusieurs demandes récemment. J'ai passé sur quelques plateaux pour parler de ça parce que j'étais allé pour la Global March à Gaza au Caire. Et puis voilà, j'allais raconter un peu cette histoire-là. Puis j'ai été confronté un peu à des gens, soit journalistes ou autres, mais qui rentrent dans ce jeu-là. Et puis, je me trouvais à devoir expliquer des choses, mais j'ai l'impression que c'est assez stérile. Alors toi, en tant que journaliste, qu'est-ce qui est important de faire en termes de transmission de messages face à ces différentes stratégies pour faire en sorte que le statu quo ne change pas, c'est-à-dire que la situation elle continue et que l'effacement des Palestiniens continue en même temps, si tu veux. Peut-être qu'il y a un espoir derrière la tête de ces gens, de se dire si on temporise encore suffisamment longtemps, Israël va finir le travail et puis on n'entendra plus parler. Peut-être que je m'imagine des choses, mais quelle posture il faut prendre non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que Pékin citoyen ou comme personne, je dirais, normale, sans pouvoir... face à cette propagande, cette hasbara, ces répétitions de mensonges et autres.
Je comprends pas bien le sens de la question. C'est-à-dire quelle posture, c'est l'information en fait, c'est juste informer sur la chronologie, rétablir.
C'est ça,
rétablir la vérité en fait, rétablir la chronologie des faits. C'est pas une posture, c'est juste rétablir la chronologie des faits. Et c'est ça qu'ils opèrent avec la hasbara, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ils présentent toujours le Palestinien comme le premier agressé et l'Israélien qui riposte.
Ils ont le contrôle.
C'est le contraire, en fait. C'est le contraire. C'est depuis le début. Qui était là au début, en fait, de cette histoire ? Qui était là paisible au début de cette histoire ? Est-ce que c'est les Israéliens juifs qui étaient là majoritaires dans ce pays et c'est les Arabes qui sont venus les coloniser ? Parce certains en sont à dire ça, en fait. C'est-à-dire c'est une inversion totale de la réalité. Ou est-ce que c'est les Palestiniens de toutes les confessions dont la communauté juive était une minorité, qui était la pacifiste et qui ont vu débouler des centaines de milliers de colons d'Europe et d'ailleurs pour les écraser, en fait, les virer de chez eux. Voilà, comment ça s'est passé, en fait, rétablir la vérité, rétablir l'information, montrer le niveau de sauvagerie, montrer ce qu'on ne nous montre pas aussi. Les médias israéliens montrent plus d'informations que les médias français. Si vous regardez les médias israéliens, vous serez informés. Il y a vraiment des informations. Moi, pour écrire le livre, du coup, je regarde un peu les médias israéliens. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui n'arrivent pas jusqu'ici. Je crois que Richard Meders te le disait récemment. quand à la Knesset, on débat de la pertinence de violer les détenus palestiniens, pourquoi on n'en parle pas ici? Pour montrer le niveau d'ensauvagement de la société israélienne, le niveau d'ensauvagement de ces gens, ils en sont à débattre sur est-il pertinent de violer les détenus palestiniens? Voilà. Quand on te dit que parler d'otages palestiniens, c'est une insulte à la grande démocratie israélienne, mais ce sont des otages, en fait. Là, d'ailleurs, il y a un article qui vient de sortir sur 972, qui est encore un média israélo-palestinien, plus 972, qui dit que sur les 5000 personnes arrêtées à Gaza depuis le 7 octobre 2023, c'est une information des renseignements israéliens, la plupart, c'est-à-dire, voilà, c'est pratiquement tous, en fait, ne sont pas, même pas des militants du Hamas. Ce sont voilà, des gens qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Et une minorité sont des militants. Donc on a pratiquement 6 000, enfin moi je parle de 10 000 otages parce qu'il y a 10 000 détenus en ce moment dans les prisons israéliennes. Et pour moi, ce sont tous des otages. Ceux qui sont en détention administrative, c'est-à-dire détention arbitraire, c'est des enfants administratifs, il faut comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que quand tu es palestinien, moi, je ne connais pas un Palestinien qui n'a pas fait un temps de prison, en fait. Parce que, à n'importe quel moment de ta vie, tu es pris, mis en tôle, et voilà, et c'est tout. On ne t'explique pas pourquoi, qu'est-ce que tu as fait, machin, et c'est renouvelable comme ça, indéfiniment, et tu peux rester des années dans des centres de détention, de torture, sans qu'on t'explique pourquoi. C'est ça, la grande démocratie israélienne. Et d'un autre point de vue, même ceux qui sont condamnés pour des crimes, moi, je ne reconnais pas la légitimité de la justice entre guillemets, israélienne. En quoi des tribunaux israéliens jugent les Palestiniens? Est-ce qu'il y a des tribunaux palestiniens qui jugent les Israéliens? Non. C'est-à-dire Israël peut tuer autant qu'elle veut de Palestiniens, il n'y a pas de tribunal qui met en prison des Israéliens pour avoir tué des Palestiniens, ça n'existe pas. Donc c'est la justice du colon. Donc moi je ne la reconnais pas. Donc les 10 000 détenus palestiniens, ce sont des otages. Il faut rendre les otages palestiniens aussi.
Oui, donc j'entends qu'effectivement, il y a un ordre des choses, c'est très intéressant de le dire, c'est de ne pas laisser certaines choses se dire sans revenir sur d'autres avant.
Mais c'est ça, en fait, il y a tu dois tout déconstruire. Pour répondre à ta question, c'est que tu dois, quand tu as face à toi un discours de colon, il faut lui montrer que c'est un discours de colon. Après, si tu as affaire à quelqu'un d'honnête intellectuellement, avec un sens moral adéquat, quoi, parce que là, les sionistes, ils sont à un niveau d'ensauvagement et de rien à foutre concernant la vie des autres, qui est
stratosphérique. C'est un peu ma question.
Des gens qui sont prêts à entendre, en fait.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai une amie journaliste, on n'avait jamais parlé de la Palestine avant, et le 7 octobre 2023, elle m'appelle et elle me dit c'est une attaque antisémite. Je lui dis pardon. Non, c'est pas une attaque. Elle me dit si, Myriam, c'est une attaque antisémite. Je lui dis comment ça? C'est-à-dire, tu veux dire que les gens ont attaqué des gens juste parce qu'ils étaient juifs? Oui, c'est ça. Et pourtant, c'est quelqu'un de hyper, hyper intéressant à gauche, je dirais, hyper cultivé, etc. Et je lui dis, ce n'est pas une attaque dont le mobile est l'antisémitisme. C'est pas ça, le mobile. Le mobile, c'est une situation d'occupation, etc. Et bon, on a parlé. Donc, je déconstruis le truc en disant, c'est pas un groupe de barbares qui s'est réveillé un matin en disant, tiens, où sont les juifs, on va les tuer. Non, ce sont des gens, d'abord, qui sont originaires de là où ont eu lieu l'attaque. 80% des Gazaouis viennent de ce qu'on appelle le sud d'Israël, de Sderot, Ashkelon, etc., tous les coins autour. Les Palestiniens viennent de Gaza, viennent de là, en fait. Ils ont été expulsés de chez eux. Donc, ce sont eux ou leurs descendants qui ont mené l'attaque. Ça, c'est un. Face à une situation de blocus dont on a parlé tout à l'heure, 16 ans de blocus et de colonisation. Après, des tentatives de résistance pacifique. Les marches de 2018-2019, c'était des marches pacifiques le long de la barrière de séparation qu'a construit Israël autour de Gaza, où plus de 200 Palestiniens ont été tués, des milliers blessés. Voilà, juste parce que les soldats voulaient s'amuser, ils tiraient sur les genoux, ils ont handicapé je ne sais combien de personnes. Voilà, donc j'ai parlé avec elle et à la fin et après, elle a changé d'avis en fait, elle a compris. Donc parce que là, j'avais affaire à quelqu'un qui était quelqu'un de raisonnable. Et là, maintenant, c'est devenu, elle est très engagée maintenant depuis que après elle a observé de manière honnête ce qui s'est passé depuis. Et c'est quelqu'un d'honnête quoi. Mais son premier réflexe, c'est-à-dire qu'en tant que personne éduquée ici, voilà, pour elle, Israël, c'était... elle me dit, moi, quand j'étais petite, j'avais un t-shirt orange avec écrit Israël, etc. Ma mère me l'avait acheté. Pour nous, c'était vraiment un pays de gauche. Moi qui suis née en Algérie, un pays qui, voilà, qui a lutté contre la colonisation et pour qui la Palestine est le, voilà, le pays à libérer, c'est lunaire, en fait, pour moi. Moi, je viens d'un tout autre monde, tu vois. Moi, je viens d'un monde où le sionisme et Israël, c'est, voilà, c'est l'impérialisme, c'est le colonialisme, et la Palestine reste à décoloniser, en fait. Et je comprends que mon amie, elle a été éduquée dans exactement l'inverse. Donc, ça, c'est bien de se confronter, puis je pense que voilà, d'ailleurs c'est une amie qui m'a aidé beaucoup dans l'écriture du livre. Voilà.
Ouais, merci, et je pense que c'est intéressant de voir où cette limite elle est, à quel moment on prend le temps de déconstruire et d'expliquer, à quel moment on arrête aussi, de mon point de vue quand même par rapport aux journalistes, c'est de dire, est-ce que vous reconnaissez que plus de 200, je crois que c'est 278, 278 journalistes ont été lâchement assassinés. Est-ce qu'à un moment ou un autre, dans votre travail, vous avez pris le temps de dénoncer ça, de condamner ça, de vous apitoyer sur ça, de, je ne sais pas, de mille formes, d'une façon, est-ce que vous
avez...
Non.
Ah, attends, j'ai pas compris la question, parce que là, je souris, parce que ça me... j'ai l'impression de faire que ça, mais ouais.
Des fois, c'est le réseau qui nous fait mâcher des mots, et c'est vrai que mon expression n'est pas toujours idéale.
Tu parles des autres journalistes.
Ah, je disais, parce que tu disais tout à l'heure, il faut prendre le temps de déconstruire avec une personne qui est un petit peu de bonne foi, mais des fois, c'est difficile de voir une personne qui est de bonne foi. Donc, je disais que pour moi, une marque de bonne foi pour un journaliste, ce serait de prouver d'une manière ou d'une autre que non seulement tu es au courant que plus de 270 personnes, mais tu vois, c'est des chiffres de nouveau, tu devrais même connaître leur nom par cœur à la limite. Non, j'exagère, il y en a trop, mais presque, en tout cas certains. Que tu as travaillé sur la perte de tes collègues, ou si tu ne l'as pas fait, pour moi, en fait, je n'ai même pas envie de rentrer en discussion avec toi, parce que pour moi, tu es déjà une erreur dans le système journalistique, si tu veux, parce que t'es pas conscient que l'autre qui fait un reportage sur une zone de guerre, eh ben c'est lui que tu dois protéger, en fait. Parce que, en fait, sinon, tu n'as aucune valeur dans ta profession. Je ne dis pas en tant qu'être humain. Et du coup, tu n'es pas crédible. Donc, voilà, c'était mon propos.
Ah oui, non, mais le massacre des journalistes palestiniens...
Mais ils ne le sont pas. Voilà.
Non, le massacre des journalistes palestiniens est du jamais vu dans l'histoire, en fait. Jamais eu autant de journalistes assassinés de manière ciblée, en plus. C'est-à-dire... Donc, oui, évidemment, moi, je passe mon temps, évidemment, à me solidariser avec les collègues en Palestine, auxquels je voue une admiration sans borne. C'est des héros absolus. Je me sens bien incapable de faire un tiers de ce qu'ils font, puisqu'ils sont aujourd'hui, le JD Press est devenu une cible plus qu'une protection. C'est clairement une cible. Si vous êtes journaliste à Gaza, vous êtes une cible privilégiée de l'armée israélienne puisqu'elle veut massacrer dans le silence, et c'est pour ça qu'elle a interdit la presse internationale et qu'elle massacre les journalistes palestiniens les uns après les autres. Et ça se fait par le processus dont on parlait tout à l'heure, de dénigrement, de dire que les journalistes, ce sont des agents du Hamas, en fait, que le matin ils sont devant la caméra et le soir ils font des attaques militaires avec le Hamas. C'est du grand n'importe quoi, puisque tout ça n'est pas étayé par rien du tout, que ce ne sont pas des combattants, c'est juste des mensonges. Israël ment H24 et fait du dénigrement sur le dos de tous les journalistes palestiniens de Gaza, des plus connus ou moins connus. Hein. Là, on a vu avant-hier une journaliste qui a reçu une balle explosive de quadcoptère dans la tête alors qu'elle allait chercher de l'eau. C'est abominable. C'est-à-dire, c'est vraiment cibler les journalistes de manière systématique, en fait. Là, je ne sais pas, et j'ai très peur pour ceux qui restent, comme comme dit notre ami Rami Aboudjamous, qui est un journaliste francophone, il dit, nous sommes des condamnés à mort. On ne sait juste pas quand est-ce qu'on va être tué, ni comment, ni ça sera avec notre famille ou sans notre famille, etc. Ils vivent dans des conditions de terreur. C'est la quintessence du terrorisme, Israël. C'est-à-dire, c'est un État terroriste. Anas Hacharif, qui a été assassiné le 10 août, il savait depuis des mois, il était dans la liste depuis des mois, ils ont sorti une liste, et quand je te dis, c'est pas une façon de parler, c'est avec sa photo, etc. Ils ont sorti la liste, et il était sur la liste, et il savait qu'il allait être assassiné. Et il a décidé de rester. D'ailleurs, son frère a dit, le lendemain de sa mort, a dit que Anas avait reçu, 4 jours avant sa mort, une proposition de quitter le territoire en échange d'arrêter la couverture de ce qui se passait. Il a refusé de partir. Donc, ces gens ont dépassé le stade d'héroïsme, en fait. Je ne sais pas par quelle foi ils sont animés, mais c'est une mission, la mission de journaliste, en fait. Ouais, ils nous mettent tous à l'avant, en fait. C'est un niveau de courage qui dépasse l'entendement, parce que vous savez pertinemment que vous allez être tué. Donc, vous êtes un condamné à mort avec son micro en train de parler et d'informer sur le sort de votre peuple. Et à n'importe quel moment, ça peut tomber. Et c'est ce qui leur arrive. Voilà. On les punit de nous informer, d'être nos yeux et nos oreilles là-bas. Et donc, oui, le manque de solidarité de la profession, même la participation au dénigrement, en fait, quand tu vois la journaliste du Point, Géraldine Messner, qui dit « Il n'y a pas de journaliste à Gaza ». Vous collez un concept occidental sur quelque chose qui n'existe pas. C'est ça, c'est le dénigrement. C'est une militante sioniste, Géraldine Wessner. Wessner, Enthoven, toute la clique, quoi. Forest. Tout ça, c'est la même clique d'agents de la Hasbara, en fait. Ce sont des agents, des gens très suspects, hein, qui n'ont pas jamais un mot de considération ou d'empathie pour les vies palestiniennes. Ce sont des militants pro-israéliens alignés sur Netanyahou, quoi.
Assez aisément reconnaissable également, en tout cas pour toute personne qui serait un petit peu attentive à ce qui se passe. Mais il y a toujours ces stratégies de retournement de l'accusation. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, non, mais Israël sait aussi, c'est par sa base, un déni justement de souveraineté de la Palestine, mais eux ils disent non, mais là-bas il n'existe même pas des journalistes, c'est pas un concept. Enfin, tu vois, c'est chaque accusation est une confession, je ne dirais jamais assez. Et ça, c'est vraiment.
Oui, par exemple, ils n'ont pas parlé, on n'a pas entendu parler d'un des plus célèbres journalistes israéliens qui a fait lui-même en direct exploser une maison au Liban, au sud du Liban, filmé pendant son émission pour la chaîne 14. Ça, vous en avez t'en as entendu parler ?
Non.
Voilà. Quand tu dis chaque accusation est un aveu, quand tu as des journalistes israéliens, et pas des moindres, qui font ça, et qu'après te disent que les journalistes palestiniens, c'est des terroristes.
Effectivement. Il y avait cette notion que j'ai entendue dans un autre entretien que tu avais eu, que j'ai apprécié, que je voudrais peut-être un peu creuser. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as des origines algériennes. On a quand même un récit très occidental autour de ça. Nous, on baigne dedans, parce que nos médias, notre culture est autre. Et pour moi, ça, c'est parfois difficile de s'en extraire. Alors, je comprends très bien que justement, une des façons de retourner ça, c'est de se mettre dans la peau d'un Palestinien qui habitait, qui vivait un territoire et qui a vu des gens arriver et le déposséder. Ça pourrait être une première chose. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de désoccidentalisation du récit ou de sortir de cet ethnocentrisme occidental pour prendre le taureau par les cornes ? Parce que finalement, peut-être qu'il me manque, moi, des éléments en tant que Suisse, qui vit en Suisse, pour vraiment prendre la mesure de ce qui se passe et puis de pouvoir transmettre la bonne information. Enfin, j'ai peur d'être assis sur le faux cheval, si tu veux.
J'ai pas compris, parce que tu m'as pas l'air d'être assis sur le faux cheval, justement. Non. Je comprends pas ce que tu veux. Non, je pense, moi, si tu veux, ça m'est aisé d'être du point de vue du dominé, parce que je viens d'un pays qui a été colonisé et qui s'est battu contre la colonisation Et c'est pas il y a 1000 ans, c'est la génération de mon père. Mon père lui-même était dans le maquis, mon père aurait été qualifié de terroriste à l'époque, à 13 ans. Et donc, je viens de cette histoire-là, en fait. Et donc, pour nous, la Palestine, c'est juste. La Palestine a été oubliée en chemin, en fait. C'est juste au moment des décolonisations. La Palestine n'a pas été décolonisée. Au contraire, elle a été colonisée au moment où les processus de décolonisation ont commencé. Mais il n'y a pas besoin de venir d'Algérie pour comprendre ça, en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui le comprennent de manière aussi sensible que moi et sont allergiques à la domination coloniale parce que c'est des gens qui ont l'empathie bien placée et un sens moral aiguisé, en fait, et qui comprennent que, fait, c'est simple. C'est simple. Imagine que tu es chez toi et que quelqu'un vient et qui dit « c'est plus chez toi ». C'est ça l'histoire de la Palestine. C'est plus chez toi, tu dégages, et si tu dégages pas, je te tue, je tue tes enfants, je te coupe l'eau, l'électricité, la nourriture, tout. Je suis
Médicaments.
surarmée, toi, tu n'as pas le droit d'être armée, voilà. Si tu es
D'accord.
armée, tu es un terroriste. Voilà, c'est simple, c'est très simple. C'est juste avoir un sens moral et puis être informé, quoi. Il faut être informé.
Oui.
La désinformation fait que, voilà, ouais. Et puis ne pas être. Ne pas appliquer de hiérarchie dans les vies humaines, si tu considères que la vie,
Voilà, c'est ça.
oh, des Arabes qui meurent, on a l'habitude.
Une vie
Par
égale.
contre, des Juifs qui meurent en Israël, non, ça, non, parce que nous, on a beaucoup tué de Juifs, donc, on ne peut pas supporter que des Juifs meurent, mais par contre, des Arabes meurent, voilà, ça, tu vois, c'est ça, en fait, la mentalité, je pense qu'elle est basée sur quelque chose qui ressemble basiquement à ça, c'est triste. Parce que oui, voilà, moi j'ai été très choquée aussi par les attaques du 7 octobre et les kidnappings d'enfants qu'il y a eu. Et c'était, voilà, quand je vois les photos qui ont été placardées partout des otages, même je sais que ça a été fait par des gens très peu recommandables et voilà, par les groupes de pression pro-israéliens, mais quand je vois le visage du petit Kfir, bah, ça me déchire le cœur. Au même titre que tous les enfants palestiniens. Donc, yes. Question de sens moral.
Bien sûr. Je faisais peut-être référence à moi parce que j'ai remarqué que j'ai évolué sur certaines choses. Il y a quelques années en arrière, je me permettais d'avoir le débat un État ou deux États. Et puis, ben moi, j'ai toujours été plutôt favorable à un État parce qu'en fait, si tu veux, ça me semble être le seul moyen pour reconnaître que chaque être vivant a la même valeur. C'est-à-dire sans les séparer de par leurs croyances ou leur ethnicité. Donc, ça ne fait pas vraiment de sens de mettre les uns d'un côté les autres de l'autre côté, puis de s'attendre à ce qu'il puisse se passer quelque chose de fertile et d'harmonieux. Mais il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, de toute façon, tu es qui pour décider ça à la place
Ouais,
des Palestiniens?
ça on est qui, bien sûr.
J'ai dû reconnaître qu'effectivement, il y avait peut-être cette posture
Exactement.
un peu occidentaliste, de dire, ben moi, en fait, je sais ce qu'il faudrait que vous fassiez, mais c'était peut-être même pareil quand, c'est pour ça
Mais
que moi, j'ai jamais
il y a plein de
accepté
paramètres à ça.
le 7 octobre, hein, parce que moi, je ne me permets pas du tout de dire un peuple asservi, complètement massacré depuis des décennies, ce qu'il devrait faire ou pas faire. Je ne vais pas aller juger ça. Évidemment, s'il y a des
Bien
crimes
sûr.
de guerre, mais j'ai même pas envie de passer du temps là-dessus. J'ai rien à dire là-dessus, moi. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une conséquence de quelque chose. Et là, je trouve qu'il y a aussi une espèce de posture prétentieuse occidentale qui pointe du doigt, qui met des bonnes notes à droite, à
Ouais,
gauche,
c'est ça.
qui est assez aussi
Il y a
insupportable parce
plusieurs
que.
paramètres. Il y a déjà ce qu'a dit Marc, mon ami de Sète, là, qui a dit reconnaître deux États, c'est reconnaître la colonisation. Donc déjà, il faut remettre. Je trouve que c'est une phrase qui montre à quel point Marc a, tu vois, qui est pas algérien, a l'esprit bien à l'endroit. C'est-à-dire, même, ça m'était pas venu à l'esprit parce qu'on est tellement matraqué par reconnaître deux États. C'est reconnaître la Palestine, bien sûr, parce que c'est elle qui n'est pas reconnue. Lui, il dit non, 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 non. Reconnaître deux États, c'est reconnaître la colonisation. Donc, il a l'esprit très à l'endroit, ce monsieur. J'ai trouvé cette phrase vraiment très, très bien placée. Mais il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire, à quel moment, ce n'est pas juste la solution. Moi, je développe ça dans mon livre et je vais le développer d'ailleurs dans un nouveau projet. Il n'y a pas. Y a, Reconnaître deux États, oui, c'est reconnaître la colonisation. C'est injuste, en fait. D'abord, c'est irréaliste parce qu'Israël, comme tu l'as remarqué, voilà, bah, dès que tu leur parles d'un État palestinien, c'est jamais le moment, c'est jamais truc, c'est jamais. Voilà, et maintenant, c'est carrément l'annexion de tout. Et en plus, c'est pas juste parce que les Palestiniens, quand Rima Hassan disait au nom de quoi je pourrais pas retourner sur le village de mes grands-parents où ils ont construit eux-mêmes leur maison et planté eux-mêmes leurs oliviers. Au nom de quoi elle ne pourrait pas retourner là-bas? C'est vrai, c'est comme si moi aujourd'hui il y avait un État français, un État algérien sur la terre d'Algérie et un État français où je ne pourrais pas aller à l'intérieur du territoire algérien. Au nom de quoi en fait? Donc c'est totalement injuste. Et en plus, tu as ceux qui te disent oui, mais il faut un État juif. Mais pourquoi en fait? Moi je ne suis pas pour les États religieux, même pas, je ne suis pas pour les États, aucun État religieux. Je ne suis pas pour l'Arabie Saoudite, pour l'Iran, les États musulmans. Avec des théocraties, pourquoi je serais pour un État juif en fait? Je comprends pas ici, d'ailleurs tu remarqueras, c'est les mêmes qui ici passent leur vie à se présenter comme laïcs ultra-islamophobes, Enthoven, Forest, toute la clique, machin, qui veulent être laïcs ici contre les musulmans et pour un État juif suprémaciste, théocratique là-bas. C'est les mêmes. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un journaliste confronté à ces gens. Moi, si je vois les gens du Printemps républicain, je leur dirais, mais comment c'est possible? Vous n'êtes pas laïque quand même, c'est quand même étonnant, vous êtes laïque. Et là-bas, vous n'êtes pas laïque. Donc vous êtes laïque ici, parce que c'est juste pour être contre les musulmans. Et là-bas, vous êtes pour une théocratie racialiste, suprémaciste juive. Voilà.
Mais te
Je finis.
répondrais que c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Donc en fait, ça se justifie parce qu'eux,
Mais
ils
ce
ont
n'est pas une
choisi.
démocratie. À aucun moment, c'est une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Encore une fois, j'étais en train de lire, d'ailleurs, Gilles Barrashkar citait Robinson, parlait de ça. Enfin, je ne vais pas te lire les extraits, mais
Mais
c'est pas être
oui,
un
parce
État
que
juif. Et...
c'est une
Non, mais
question
je
de
ne
la démocratie.
l'ai pas noté. Mais ce n'est pas,
Pourquoi
tu peux
la
pas
démocratie?
être un État juif et démocratique, parce que si tu es démocratique, ben, c'est la majorité, et puis tu dois donner la citoyenneté aux gens, en fait. Non, non, Israël n'est pas. C'est une démocratie pour les juifs, mais pas pour les autres. Puisqu'il y a des lois, il n'y a pas de constitution, mais il y a des lois fondamentales qui, dont une cinquantaine, sont différentes selon si tu es juif ou pas juif. Donc, si tu es par exemple, ce qu'ils appellent un arabe israélien, ce que nous on appelle un palestinien de 48, eh ben, à partir de 12 ans, par exemple, tu peux être emprisonné à vie, à perpétuité, en Israël. Mais quand tu es un enfant juif, non, c'est pas 12 ans. Voilà, l'éducation, les Palestiniens n'ont pas le droit d'enseigner leur histoire, ils n'ont pas le droit d'acquérir, je parle des Palestiniens de 48, hein, des Arabes israéliens, ce qu'ils appellent les Arabes, parce que tu dis, ah oui, Israël est une démocratie, il y a des députés arabes et il y a 20% d'Arabes. Oui, mais sauf qu'ils vivent dans un état d'apartheid, en fait. Ils n'ont pas le droit d'acquérir des propriétés partout. C'est la communauté la plus pauvre, évidemment. Ça va sans dire d'Israël. Il y a plein de lois comme ça qui les empêchent à tous les niveaux. Ils ont des droits inférieurs aux Juifs. Donc, à quel moment c'est une démocratie?
À aucun moment, effectivement, mais
Et en
c'est là.
plus, même
En
pour
fait,
les Juifs israéliens, l'extrême minorité extrêmement courageuse de Juifs israéliens antisionistes, et anticolonialistes, il faut voir comment ils sont réprimés. Hein. Dès qu'ils se mobilisent, la répression est féroce, quoi. Ils sont mis en prison, ils sont virés, et puis ils ont une pression terrible, que ce soit politique ou même sociale, familiale. Ils sont très courageux d'ailleurs, il faut leur rendre hommage.
oui, ils sont d'ailleurs presque plus radicaux aussi, les groupements juifs antisionistes occidentaux, comme en tête, je me rappelle plus les lettres, l'UFJP, non, j'oublie le
L'UFP?
nom. L'UFJP, voilà, exactement. Oui, il y a vraiment des gens courageux qui portent le flambeau et voilà, qui montrent le chemin pour un peu de dignité et d'humanité, quoi. Ouais. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, la situation aujourd'hui à Gaza, peut-être on peut faire un petit... T'observes aussi beaucoup, comme moi et comme des millions de personnes, tu vois les atrocités se dérouler quasiment en temps réel. sur les écrans. Donc là, la famine a été déclarée seuil 5 officiellement récemment, mais on le savait depuis longtemps. Il n'y a quasiment plus d'hôpitaux qui tient debout. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut encore faire de pire à l'heure actuelle. Donc on a une couverture qui est aussi
Tu sais,
très bonne.
on se dit ça depuis 2 ans. Hein. Tous les jours, on se dit ah, ça peut pas être pire. Mais en fait, si, ça peut être pire. Toujours. Je suis d'accord avec toi. Tu as l'impression que ça peut pas être pire. C'est tellement
Mais c'est
le
chaque
comble
jour,
de l'impunité, de la cruauté.
200 personnes. Ouais. Et évidemment, tu as suivi la pseudo-distribution alimentaire qui est en fait un champ d'exécution, quasiment chaque fois. C'est difficile, il n'y a plus trop de nouvelles choses. Alors, ça continue, mais à chaque fois, ils ajoutent une nouvelle chose qu'on n'aurait même pas pu imaginer dans ces cauchemars les pires. Voilà, donc comment tu analyses aujourd'hui? Est-ce que tu as quand même une forme d'espoir? Je suis évidemment assez pessimiste, mais quelque part, il y a au bout. Je me dis que la résilience, non seulement de tous ces gens que je vois se battre, tu as parlé des journalistes notamment, mais pas que, hein, tous les autres, d'une certaine manière, ne peut, que tu le veuilles ou non d'ailleurs, ne peut pas être effacée complètement. Par contre, quand tu agis de manière complètement malade, puisque c'est des malades, comme ils fonctionnent, ils sont fous, enfin, ils ont perdu ce qui m'a fait leur humanité, eh bien, j'ai tendance à croire que ben ça, au bout d'un moment, ça s'autodétruit. C'est peut-être un peu naïf, hein, mais du coup, je pense pas que c'est durable, si tu veux, que ça continue encore 2 ans, par exemple, ou 3 ans. Je crois que ce n'est pas possible en termes de moyens. Mais je ne sais pas si c'est un vœu pieux ou un espoir comme ça, ou si c'est ancré dans quelque chose. Il y avait quand même Papé qui avait dit un peu la même chose. Il était très pessimiste pour le maintenant,
Ouais,
mais
voilà.
il
Moi, je
pense
suis
qu'il
un
y
peu.
a quand
Voilà.
même un bouleversement majeur qui est en train
Moi,
d'arriver,
je
et d'une
suis comme
certaine manière,
Papé.
c'est.
Je suis comme Ilan Papé. Je pense comme lui. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être optimiste aujourd'hui. C'est la catastrophe pour les Palestiniens. C'est très possible qu'on assiste à la déportation du peuple palestinien hors de sa terre. C'est très possible parce que de toute façon, Gaza est quasi inhabitable pour la plupart des régions. Donc, forcément, à un moment, quand ça va s'ouvrir, les gens, beaucoup n'en peuvent plus aussi. Les Palestiniens, il y en a beaucoup qui veulent partir. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas partir. Il y en a beaucoup qui veulent partir. Et c'est totalement justifiable, et explicable et compréhensible. Mais beaucoup ne veulent pas partir. C'est possible qu'on assiste au départ forcé, à la déportation de ce peuple hors de sa terre, mais je pense qu'à l'international, au niveau des peuples, les choses sont en train de changer. On n'a jamais eu une communauté, entre guillemets, internationale aussi lâche, que ce soit les pays arabes, tous les grandes puissances, soi-disant du Sud, qui font rien pour la Palestine, la Russie, la Chine. Rien, il se passe rien en fait au niveau des États, pratiquement rien.
Non,
Là maintenant, autour du groupe de La Haye, il se passe des choses intéressantes. C'est un groupe de pays qui a signé un document commun pour appliquer des sanctions et du contrôle sur le trafic maritime, notamment des armes, etc., qui est à destination d'Israël pour lutter contre le génocide. Mais sinon, il ne se passe pas grand-chose, quoi, au niveau des États. La lâcheté des pays arabes est incroyable. Mais au niveau des citoyens, tu vois, bah, tu as vu toi-même, puisque tu es allé au Caire, les dizaines de milliers de personnes qui se sont pointées au Caire.
Les
Là, les
flottilles,
flottilles. On a vu au Festival de Venise hier des grands acteurs comme Joachim Phoenix. Au film sur l'histoire de la petite Hind Rajab. Et l'émotion. Donc, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Je pense que l'image d'Israël est ternie pour très longtemps. Et ça, c'est le bon côté de l'histoire. J'espère que voilà, le narratif va changer maintenant. Et que c'est le début de la libération du peuple palestinien. Et pour ça, il faut que les mentalités changent fondamentalement de manière obligatoire en Israël. C'est-à-dire que le peuple israélien actuellement et la société, elle est dans un état de comment dire?
Délicatesse.
Non, ouais, de comment on dit, déchéance morale, la déchéance morale, l'immoralité. Quand tu vois les sondages favorables au génocide, favorables au nettoyage ethnique, voilà, enfin, des dizaines d'histoires qui montrent le niveau voilà, d'immoralité de cette société, il faut absolument qu'elle change de gamberge, et ça, il faut lui imposer, parce que ça ne va pas se faire comme ça, en fait. C'est une société coloniale, donc profondément raciste et suprémaciste dans son fondement. Ils ont été élevés comme ça, c'est-à-dire que quand ils sortent du ventre de leur mère, on leur explique que voilà, c'est les Arabes, c'est de la merde, que c'est nos ennemis, qu'ils veulent tous nous tuer. C'est comme ça aussi qu'on crée un génocide. C'est en disant que l'autre veut te tuer. Donc, le tuer, c'est bien.
C'est comme ça qu'il le justifie tout le temps.
Ouais, voilà.
Alors, il y
Donc,
a.
voilà, il y a un travail fondamental, et ça, pour ça, c'est la pression internationale. Elle ne vient pas, malheureusement, des États, mais les peuples, en ce moment, je pense, sont plus réveillés que jamais. Vraiment. Ça, je
Voilà,
le
au niveau
ressens.
des.
Donc,
Ouais.
comme a dit Ilan Pappé, d'ailleurs, ça, j'ai repris tout un pan de son article dans mon livre, je crois que ça s'appelle L'effondrement du sionisme, quelque chose comme ça, et où il parle selon lui, c'est la fin du sionisme. C'est la
Bien
fin
sûr.
du. Voilà, il parle même en Israël, il y a une division profonde entre ce qu'il appelle, lui, l'État d'Israël et l'État de Judée avec les colons des collines, là, les fous furieux de Cisjordanie, qui sont en train de devenir dominants là-bas, en fait. Israël, tel qu'on nous le présentait, gay-friendly, de Tel Aviv, les plages, tout ça, c'est en train d'être noyé sous ce que Ilan Pappé appelle l'État de Judée, avec les fous religieux intégristes. Voilà, et ça, personne ne va les soutenir. Hein. Enfin, à
Mais
part,
difficilement.
très important, ça, il faut absolument le mentionner, les évangélistes. Et ça, ce n'est pas une minorité. Et les
Dans 130
évangélistes,
millions aux États-Unis, les
parce que là,
évangélistes.
aux États-Unis, par exemple, qui est un pays représentatif, la communauté juive soutient de moins en moins Israël. Et ce sont les évangélistes qui sont aussi des fous de Dieu. On a l'impression d'être des milliers d'années en arrière, en fait. Avec ces nouveaux fous de Dieu dans toutes les religions, quoi.
Ouais.
Que ce soit chez les Juifs, chez les musulmans, et là, chez les chrétiens, les évangélistes, c'est vraiment. Et d'ailleurs, le but final est antisémite, mais ils veulent que tous les Juifs retournent en Israël. Et c'est vraiment des gens, tu regardes leurs vidéos dans leurs églises, waouh, ça fait un peu peur.
Oui,
Et ça, c'est
avec.
pas une minorité aux États-Unis et en Amérique du Nord et du Sud.
Avec on le voit aussi par rapport aux différences générationnelles de vision, notamment les jeunes juifs américains soutiennent maintenant plus en majorité l'État d'Israël. C'est certainement le cas. Mais comme je disais au tout début de l'entretien, quand tu imposes un génocide et des horreurs en direct sur les écrans de tout le monde, puisque maintenant on vit sur nos écrans, eh bien, il va y avoir une conséquence. Et ceux qui sont sur leurs écrans, celles où on voit tout ça, sur Twitter, X ou Instagram ou YouTube, eh bien, de croire que ça va tout rentrer dans l'ordre à la fin, puis que, ah, en fait, on s'est un peu trompé, ouais, on était un petit peu fort, etc., et puis que ça va passer comme une lettre à la poste,
Non.
c'est effectivement, là, j'y
Non,
crois pas
non.
du tout. Il y aura des conséquences qui
Bien
font
sûr.
que les bases sur lesquelles on est assis aujourd'hui pour faire tenir cette architecture mortifère ne sont pas tenables. C'est ça
Non.
qui me donne un peu l'espoir, mais
Oui, je suis d'accord
sur
avec
quel
toi.
point?
Ouais.
C'était ça.
Il faut pas que je tarde à y aller. Là, je vais devoir y aller. Je suis désolée.
Absolument, c'était
Je
prévu
t'avais dit
d'ailleurs au
16h,
début.
mais.
Tu m'avais dit 16h,
Ouais.
et puis ben, c'est un petit peu plus tôt. Et puis ben, la prochaine fois que tu passes, on pourra évoquer ton travail sur l'Amérique latine, puisque tu as aussi
Ouais, ça fait longtemps que
pas
j'ai
mal de
malheureusement
papiers.
pas travaillé sur l'Amérique latine depuis octobre 2023.
Ça vaudrait la peine parce que là, en Bolivie, il se passe des choses qui seraient
Oui.
importantes de comprendre, notamment avec la gauche chaviste qui, ben, là, s'est divisée, s'est
Ouais.
fracturée.
Bah, il faut
Pas chaviste,
suivre Romain Migus pour ça. Romain Migus. Bah, d'ailleurs, tu pourrais l'interviewer, c'est intéressant. Alors,
Ouais,
t'as pas,
c'était.
c'est une encyclopédie de l'Amérique latine. C'est
Je
soit Romain Migus, soit Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde Diplo. Ce sont les meilleurs
Oui, c'est.
spécialistes. T'as aussi
Ouais.
Christophe Ventura, bien sûr, du Diplo en ce moment. Il y a pas mal de gens qui
C'était Evo
suivent bien.
Morales qui voulait revenir au pouvoir, et puis bah, il y a eu des bisbilles, et puis la division, c'est un peu toujours la même histoire,
Ouais.
sur le mot révolutionnaire de gauche qui se divise. Et
Ouais.
puis, ça pourrait être un sujet. Mais voilà, très très
Ouais,
bien.
une autre fois.
Pour ton temps. J'avais interviewé Gilles Dever 2 mois avant
Oh,
son
Gilles
décès.
Devers, il nous manque.
Il était formidable. Et puis, il avait
Quel
conclu.
courageux, monsieur.
Ouais, un homme formidable. Il avait conclu l'entretien en disant, allez, on continue. Alors voilà, c'est tout ce que je te souhaite pour la suite. Allez, on continue.
On continue. Bon courage à toi.
Et
Et
puis,
merci pour l'invitation. La
merci à
prochaine fois
toi.
en Suisse, peut-être que je viendrai là-bas.
J'espère. À bientôt.
À
Ciao.
bientôt. Salut.
Merci, Myriam. À la